Chapitre 14.
On peut parler ?
Demanda Roy en désignant Isidore.
Jusqu'à un certain point,
fit Pris, vibrant de félicité. Puis, à l'adresse d'Isidore,
excusez-nous.
Elle prit les Beatty à part et leur murmura quelques mots, puis tous trois se retournèrent face à J.R. qui se sentit soudain de trop. Je vous présente Monsieur Isidore, dit Pris. Il prend soin de moi. Ces paroles sortaient de sa bouche teintées d'un sarcasme presque méchant. Isidore battit des paupières. Vous voyez? Il m'a apporté de la vraie nourriture.
De la nourriture?
Répéta Irmgard avant d'aller vérifier au petit trot dans la cuisine.
Des pêches!
Et d'attraper aussitôt un bol et une cuillère pour se mettre à grignoter avec enthousiasme, comme l'aurait fait un petit rongeur. Son sourire, différent de celui de Pris, dénotait un caractère chaleureux, spontané, sans le moindre sous-entendu. Isidore la suivit. Il ressentait de l'attirance à son égard.
« Vous venez de Mars ?»«
Oui, nous en sommes partis. » Sa voix dansait tandis que ses yeux bleus lui lançaient des étincelles avec une perspicacité de volatile.
« Vous vivez vraiment dans un immeuble horrible ?»«
Il n'y a personne d'autre ici, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas vu la moindre lumière, à part les vôtres. »
« J'habite plus haut, » dit Isidore.
« Ah ! Je me demandais si Pris et vous viviez ensemble. » Il n'y avait pas la moindre désapprobation dans sa voix, c'était à l'évidence un simple constat.
« Ils ont eu Polokov, »
déclara Roy Beatty d'un ton maussade, mais sans pour autant cesser de sourire. La joie qui était apparue sur le visage de Pris à la vue de ses amis s'évanouit aussitôt.
« Qui d'autre ?»«
Garland, Anders, Gitchell et Luba, un peu plus tôt dans la journée. »
Il assénait ses nouvelles comme s'il prenait quelque plaisir pervers à les donner, à choquer Pris.
« Je ne pensais pas qu'ils auraient Luba. Rappelez-vous ce que je ne cessais de dire pendant le voyage. »
Donc ça ne laisse...
commença Pris.
Que nous trois,
conclut Irmgard avec une insistance pleine d'appréhension.
C'est la raison de notre présence ici.
La voix de Roy Beatty s'était mise à vibrer d'une chaleur nouvelle, inattendue. Plus la situation empirait, et plus il semblait s'en réjouir. Isidore ne parvenait pas le moins du monde à le déchiffrer.
Oh. « Mon Dieu !»
fit Pris affligé.
« Eh bien, ils avaient cet enquêteur, ce chasseur de primes, »
dit Irmgard avec agitation,
« un certain Dave Holden. »
Son nom semblait comme du venin à ses lèvres.
« Et Polokov a failli le mettre hors jeu. »«
Failli !»
répéta Roy avec un sourire désormais immense.
« Ce Holden a été emmené à l'hôpital. »
poursuivit Irmgard.
Et apparemment, ils ont donné sa liste à un autre chasseur de primes, que Polokov a failli avoir également. Mais c'est l'inverse qui s'est finalement produit. Il s'est alors lancé aux trousses de Luba. Nous le savons parce qu'elle a réussi à prendre contact avec Garland, qui a envoyé quelqu'un capturer le chasseur de primes pour le ramener à l'immeuble de Mission Street. Luba nous a appelés juste après. Elle était sûre que Garland allait définitivement régler le problème. Mais, ajouta-t-elle, quelque chose a manifestement mal tourné. Nous ignorons quoi, et nous ne le saurons peut-être jamais.
« Et ce chasseur de primes a nos noms ?» demanda Pris.
« Oh oui, ma chère, »
lui répondit Irmgard.
« Ça ne fait aucun doute. Mais il ignore où nous nous trouvons. Roy et moi n'allons pas retourner à notre appartement. Nous avons chargé tout ce que nous pouvions dans notre voiture, puis nous avons décidé de prendre un des appartements abandonnés de ce vieil immeuble miteux. »
Vous trouvez ça prudent ?
Intervint Isidore en rassemblant tout son courage.
De tous être au même endroit ?
Eh bien, ils ont eu tous les autres,
fit Irmgard d'un ton neutre. Elle aussi semblait étrangement résignée, en dépit de son agitation superficielle.
Ils ont tous quelque chose de tellement bizarre,
se dit Isidore.
Il pouvait le sentir, sans pour autant parvenir à mettre le doigt dessus. Comme si quelque abstraction singulière, pernicieuse, s'insinuait dans leur processus mental. À part Price, peut-être. La jeune femme avait l'air complètement terrorisée. Price semblait presque normale, presque naturelle. Mais...
Pourquoi n'emménages-tu pas avec lui ?
Dit Roy à l'intention de Price.
Il pourrait assurer un certain niveau de protection.
Une tête de piaf ? Je ne vais certainement pas vivre avec une tête de piaf. Les narines de la jeune femme se dilatèrent. Je te trouve ridicule de faire la fine bouche dans une situation pareille. Se hâta de renchérir Irmgard. Les chasseurs de primes n'ont pas l'habitude de traîner. Ils risquent de vouloir régler l'affaire dès ce soir. Il touche peut-être un bonus s'il parvient à le faire avant.
Bordel. Fermez cette porte.
Roy se jeta dessus et la claqua violemment pour aussitôt la barricader sommairement.
Je crois que tu devrais emménager avec Isidore, Price. Et je crois qu'Irm et moi devrions nous installer dans cet immeuble. Comme ça, on pourra s'entraider. J'ai quelques composants électroniques dans ma voiture. Du bric-à-brac que j'ai arraché au vaisseau. Je vais installer un émetteur-récepteur de façon à ce qu'on puisse s'entendre et mettre en place un système d'alarme qu'on pourra tous utiliser. De toute évidence, nos identités d'emprunt n'ont pas fonctionné, même celle de Garland. Bien sûr, il s'est jeté dans la gueule du loup en faisant venir le chasseur de primes à Mission Street. C'était une erreur. Et Polokov, au lieu de rester aussi loin que possible de lui, a choisi de l'aborder. Pas question d'en faire autant. On va rester ici.
Le ton de sa voix ne recelait pas la moindre trace d'inquiétude. La situation semblait lui avoir redonné une énergie débordante, presque hystérique.
Je crois...
Il poussa un bruyant soupir, histoire de s'assurer l'attention de tous les occupants de la pièce, y compris Isidore.
Je crois que nous ne sommes pas encore tous les trois en vie sans raison. Je crois que s'il avait le moindre indice sur l'endroit où nous nous trouvons, il se serait déjà pointé. Un chasseur de primes se doit d'agir aussi vite qu'il le peut, ses rémunérations en dépendent.
Et s'il attend trop, ajouta Irmgard, nous disparaissons comme nous l'avons déjà fait. Je parie que Roy a raison, qu'il a nos noms, mais pas notre localisation.
Pauvre Luba.
Coincé à l'opéra du Monument aux Morts au grand jour. Pas difficile de la trouver.
« Eh bien !»
fit Roy avec emphase.
« C'est elle qui l'a voulu. Elle se croyait plus en sûreté dans la peau d'un personnage public. »«
Tu l'avais mise en garde ?» approuva Irmgard.
« Oui. Je le lui avais dit. Comme j'avais dit à Polokov de ne pas essayer de se faire passer pour un agent de l'OMP. » Comme j'avais prévenu Garland qu'un de ses propres chasseurs de primes finirait par le démasquer, ce qui, selon toute apparence, s'est bel et bien produit.
Il se balançait d'avant en arrière sur ses lourds talons, le visage empreint de profondeur.
« À vous entendre ?» intervint Isidore. « Je suppose que M. Beatty est votre chef ?»«
Oh oui !»
confirma Irmgard.
« Roy est un vrai chef. »
« C'est lui qui a organisé notre voyage, » intervint Price, « depuis mars. »«
Dans ce cas, »
poursuivit le spécial,
« vous feriez mieux de faire ce qu'il vous suggère. »
Sa voix se brisa d'espoir et de tension.
« Ce serait formidable, Price, si vous veniez vivre avec moi. » Je resterai chez moi pendant quelques jours. J'ai des vacances à prendre bientôt pour m'assurer que tout va bien.
Et peut-être que Milt, qui était très inventif, pourrait lui bricoler une arme. Quelque chose d'imaginatif, susceptible de supprimer les chasseurs de primes, ou quoi qu'ils fussent. Il en avait une image très vague, indistincte, sinistre. Une chose sans pitié nantie d'une liste imprimée et d'un pistolet qui accomplissait telle une machine sa tâche meurtrière, platement bureaucratique. Une chose dénuée d'émotion, de visage. Une chose qui, lorsqu'elle périssait, était immédiatement remplacée par une autre en tout point identique, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier être vivant ait été abattu.
C'est incroyable que la police ne puisse rien faire. Je n'arrive d'ailleurs pas à y croire. Ces gens ont forcément fait quelque chose. Peut-être sont-ils revenus sur la Terre illégalement. On nous dit, à la télé, de signaler tout atterrissage de vaisseau en dehors des rampes autorisées. La police doit surveiller ça de près. Mais, tout de même, on ne tue plus personne délibérément de nos jours. Ça va à l'encontre du mercérisme.
La tête de Piaf m'aime bien, fit Pris. Ne l'appelle pas comme ça, Pris, fit Irmgard avec un regard de compassion à l'adresse d'Isidore. Imagine comment il pourrait t'appeler. Pris se garda bien de répondre. Son expression devint énigmatique.
« Je vais commencer à installer les micros, » dit Roy. « Irmgard et moi allons rester dans cet appartement. Toi, Pris, tu vas chez Monsieur Isidore. »
Puis il partit vers la porte à une vitesse incroyable pour un homme de sa corpulence, pour disparaître dans la pièce d'à côté. Isidore fut alors pris d'une étrange hallucination passagère. Il aperçut brièvement un cadre de métal, une plateforme de poulies, de circuits, de batteries, de tourelles et d'engrenages. Puis, la silhouette négligée de Roy Beatty revint en fondu enchaîné dans son champ de vision. Isidore sentit monter en lui un éclat de rire nerveux qu'il réprima aussitôt. Il était abasourdi. Quel homme d'action! Lança Pris d'un ton distant. Dommage qu'il soit si maladroit de ses mains pour bricoler. Si nous en réchappons, intervint Irmgard d'une voix désapprobatrice, ce sera grâce à Roy. Pour peu que ça en vaille la peine. Pris semblait surtout parler pour elle-même. Elle haussa les épaules puis adressa un signe de tête à Isidore.
D'accord, J.R., je vais m'installer chez vous sous votre protection.
Venez tous!
Dit aussitôt Isidore. Soyez certain que nous apprécions votre proposition à sa juste valeur, monsieur Isidore, l'assura Irmgard Beatty d'une petite voix formelle.
Je crois que vous êtes le premier ami que nous ayons trouvé sur Terre.
C'est très gentil à vous, et j'espère que nous pourrons vous revaloir cela un jour. Elle glissa vers lui pour lui tapoter le bras.
Auriez-vous des fictions précoloniales à me faire lire?
Lui demanda-t-il.
Pardon?
Irmgard jeta un coup d'œil interrogateur en direction de Pris.
Ces vieilles revues, expliqua celle-ci.
Elle avait rassemblé quelques affaires pour les emporter. Isidore lui prit le paquet des mains, rayonnant du bonheur qu'on éprouve d'avoir atteint son but.
Non, J.R. Nous n'en avons pas rapporté pour les raisons que je vous ai données.
J'irai à la bibliothèque demain,
dit-il en sortant dans le couloir, pour trouver de quoi lire, pour vous et pour moi, histoire que vous ayez quelque chose d'autre à faire qu'attendre. Il conduisit Pris jusqu'à son appartement, un lieu sombre, vide, mal aéré. Après avoir transporté ses affaires dans la chambre, il alluma le chauffage, les lumières et la télé, qui ne captait plus qu'une chaîne. « J'aime beaucoup », commenta Pris, mais toujours sur le même ton détaché. Lointain. Elle flânait ici et là, les mains enfoncées dans les poches de sa jupe. Son visage arborait néanmoins une expression revêche, presque moralisatrice, qui contrastait avec ce qu'elle venait de dire.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
s'enquit-il en posant ses affaires sur le divan.
« Rien. »
Elle fit halte devant la fenêtre, tira les rideaux et regarda au loin d'un air morose.
« Si vous croyez qu'il vous cherche, »
commença-t-il,
« c'est un rêve. »
Coupa Pris, provoqué par les drogues que Roy m'a données.
« Pardon ? » ?»«
Vous croyez vraiment que les chasseurs de primes existent ?»«
Monsieur Beatty a dit qu'ils avaient tué vos amis. »«
Roy Beatty est aussi fou que moi, » fit Pris.
« En fait, nous arrivons d'un hôpital psychiatrique situé sur la côte Est. » Nous sommes tous des schizophrènes avec des vies affectives anormales. On appelle ça un aplatissement de l'affect. Et nous avons des hallucinations collectives.
Je n'y croyais pas vraiment,
dit-il avec un soulagement évident. Et pourquoi ça? Elle pivota sur ses talons pour le fixer droit dans les yeux, d'un regard si scrutateur qu'il se sentit aussitôt rougir.
Parce que des choses pareilles ne peuvent pas arriver. Le gouvernement ne tue jamais personne, quel que soit le crime commis, et le mercérisme, mais quand on n'est pas humain. Voyez-vous, c'est totalement différent.
C'est faux. Même les animaux, même les anguilles, les gaufres, les serpents ou les araignées sont sacrés.
Price continuait de l'observer fixement. Donc ce n'est pas possible, c'est bien ça.
Comme vous le dites, même les animaux sont protégés par la loi. Toute vie, tout ce qui est organique, qui frétille, se tortille, creuse ou vole, qui grouille ou qui pond des œufs ou...
Elle s'interrompit car Roy Beatty venait d'ouvrir brutalement la porte de l'appartement et y pénétrait, tirant un câble qui traînait par terre derrière lui.
« Les insectes !»
fit-il, ne faisant montre d'aucune gêne à entendre leur conversation,
« sont particulièrement sacro-saints. »
Après avoir décroché un tableau du mur du salon, il attacha au clou un petit appareil électronique, recula d'un pas pour regarder, puis raccrocha le cadre.
Et maintenant l'alarme.
Il entreprit de ramasser le câble, raccordé à un montage complexe qu'il montra ensuite à Price et John Isidore, sans se départir de son sourire discordant.
« Ces fils vont passer sous le tapis. Ce sont des antennes. Elles captent la présence de... »
Il hésita.
« De toute entité mentationnelle, » dit-il obscurément, « qui ne serait pas l'un de nous quatre. »
« Donc ça sonne, » fit Price.
« Et puis quoi ? Il aura une arme. On ne peut pas lui tomber dessus et le mordre à mort. Ce montage, » poursuivit Roy, « intègre une unité Penfield. Quand l'alarme a été déclenchée, ça diffuse une ambiance de panique autour de l'intrus. À moins qu'il n'agisse très vite, ce qui reste possible. Une panique immense, je l'ai réglée au maximum. Aucun être humain ne peut rester dans les environs plus de quelques secondes. La panique les fait tourner en rond à l'aveuglette. Elle les fait fuir sans but, pris de spasmes musculaires et nerveux. Ce qui,
dit-il en guise de conclusion,
nous fournira une occasion de nous débarrasser de lui. Peut-être. Ça va dépendre de son niveau de compétence.
« L'alarme ne va-t-elle pas nous affecter ?»
s'enquit Isidore. « C'est vrai, » dit Price à l'attention de Roy Beatty. « J.R. sera touché. »«
La belle affaire, »
fit Roy avant de se remettre à la tâche.
« Ils vont tous les deux filer d'ici sous l'effet de la panique. Ça nous donnera, quoi qu'il en soit, le temps de réagir. » Et puis Isidore n'a rien à craindre d'eux. Ils ne se trouvent pas sur leur liste. C'est ce qui le rend utilisable comme couverture.
« Tu ne peux vraiment pas faire autrement, Roy ?» demanda alors Price avec rudesse.
« Non. Impossible.
Je devrais pouvoir me procurer une arme demain, »
intervint Isidore. « Tu es sûr que sa présence ici ne va pas déclencher l'alarme ?» poursuivit Price. « Après tout, c'est un... Tu sais quoi ?»
« J'ai intégré ces émissions céphaliques au dispositif, » expliqua Roy. « Leur seul niveau ne déclenchera rien. Ça nécessite un humain supplémentaire, une personne. »
Sourcils froncés, il lança un regard à Isidore, conscient de ce qu'il venait de dire.
« Vous êtes des androïdes. »
comprit J.R., mais peu lui importait.
« Je comprends pourquoi ils veulent vous tuer. En fait, vous n'êtes pas vivant. »
Tout prenait sens à ses yeux désormais. Le chasseur de primes, le meurtre de leurs amis, le voyage sur Terre, toutes ces précautions.
« Utiliser le mot « humain »,
fit Roy Beatty à l'intention de Price,
« a été une erreur. »«
C'est vrai, monsieur Beatty, »
dit Isidore.
Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je veux dire, je suis un spécial. On ne me traite pas très bien non plus. Je n'ai pas le droit d'émigrer, par exemple.
Il se surprit à jacasser comme un lutin.
Vous n'avez pas le droit de venir ici? Et moi, je n'ai pas le droit.
Il se calma.
Vous n'auriez pas apprécié Mars,
commenta laconiquement Roy Beatty après quelques instants de silence.
Vous ne manquez rien.
Je me demandais combien de temps ça allait vous prendre pour vous en rendre compte, fit Pris. Nous sommes différents, pas vrai?
C'est sans doute comme ça que Garland et Max Polokov ont été pris en défaut,
expliqua Roy Beatty.
Ils étaient tellement persuadés de pouvoir passer entre les gouttes. Pareil pour Luba.
Vous êtes des intellectuels,
fit Isidore, tout excité d'avoir compris.
Excité et fier. Vous pensez abstraitement, et vous ne...
Il se mit à gesticuler, ses mots s'emmêlant les uns les autres, comme d'habitude.
J'aimerais tellement avoir un QI comme le vôtre. Je pourrais passer le test, je ne serais plus une tête de piaf. Je vous trouve vraiment supérieur. Vous pourriez beaucoup m'apprendre.
Au terme d'un silence prolongé, Roy Beatty reprit la parole.
« Je vais finir de brancher l'alarme. »
Ce qu'il partit faire. « Il n'a pas encore compris, » le retint Pris de sa petite voix crispée de stentor, « comment nous sommes partis de Mars, ce que nous faisions là-bas. »«
Ce qu'on nous forçait à y faire, »
grogna Roy Beatty. Irmgard Beatty se tenait à la porte depuis un moment. Ils ne remarquèrent sa présence que lorsqu'elle parla d'une voix empreinte de sérieux. « Je ne crois pas que nous ayons à redouter quoi que ce soit de Monsieur Isidore. » Elle fit quelques pas rapides dans sa direction. « Il ne le traite pas très bien non plus, comme lui-même l'a rappelé. Et il se fiche de ce que nous avons fait sur Mars. Il nous connaît, il nous apprécie, et pareil lien affectif, c'est tout ce qui compte pour lui. Ce n'est pas facile pour nous de le comprendre, mais c'est la vérité. Puis, à l'adresse d'Isidore, qu'elle scrutait du regard, « Vous pourriez gagner un paquet en nous dénonçant, vous en avez conscience ?» Puis se tournant vers son mari. « Tu vois, il s'en rend compte. Mais il ne compte pas parler pour autant. Vous êtes un grand homme, Isidore. » lui dit Pris. L'honneur de votre race.
Si c'était un androïde,
ajouta chaleureusement Roy,
il nous livrerait à la police à la première heure demain. Il partirait au travail et s'en serait fini. Je suis submergé d'admiration.
Il parlait sur un ton indéchiffrable, en tout cas pour Isidore.
Et nous qui imaginions un monde inamical, une planète peuplée de visages hostiles, tous tournés contre nous.
Il éclata de rire. Je ne suis pas du tout inquiète, dit Irmgard.
Tu devrais pourtant chier dans ton froc,
répliqua Roy. Votons, fit Pris, comme à bord du vaisseau quand nous avions un désaccord. Très bien. Fit Irmgard. Je ne dirai pas un mot de plus. Mais si nous rejetons son offre, je doute que nous retrouvions un seul être humain prêt à nous accueillir et à nous aider. Monsieur Isidore est... Elle se mit en quête du mot approprié. Spécial, dit Pris.